Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant de la poussière à la gloire. Nous arrivons à l'étude numéro 2. Le titre aujourd'hui sera « L'âme partagée et la conscience du péché ». L'âme partagée et la conscience du péché. Chers amis, nous devons trouver le repos en Dieu avant que Dieu puisse reposer en nous, car il est notre paix. Notre paix n'est pas un quelconque endroit paisible recherché, mais c'est une personne en qui nous devons demeurer. Cela ne devrait pas être difficile puisque, déjà maintenant, en tant que croyant, notre esprit est un avec lui. Il est venu en nous pour occuper une place qui s'appelle notre esprit, une chambre créée spécialement pour que sa vie y demeure. Nos murs sont continuellement devant lui. Nous nous trouvons néanmoins, hélas, engagés dans un combat. Ce combat est au niveau de notre entendement et de nos pensées. Dieu semble toujours être loin de nous. Nous ne bénéficions pas pleinement de sa présence et nous avons l'impression d'être incapables de maintenir la communion permanente avec lui. L'intelligence naturelle détourne notre attention vers le domaine charnel et nous sommes coupés de la communion avec Dieu en nous qui est notre lieu très saint personnel. L'entendement a créé un voile néo-testamentaire nous isolant de toute communication intérieure avec Christ. Nous pataugeons spirituellement à cause de cette barrière artificielle qui a été créée par l'entendement charnel. L'âme combat contre l'esprit. C'est bien vrai. Pendant un temps, nous avons l'âme qui est partagée. Il y a dualité en nous. Il y a combat entre l'âme et l'esprit. Nous devons demeurer en lui, Jésus. Nous devons apprendre à vivre constamment reliés, branchés sur notre homme intérieur spirituel. Cela s'appelle la pratique de sa présence. Jésus vivait cette communion constante avec le Père, selon Saint Jean chapitre 14, verset 10, où il est dit « Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. » Jésus était donc toujours à l'écoute du Père qui lui parlait intérieurement. Il demeurait dans son Père toute sa vie terrestre. Il la vivait sous le joug de la main de son Père. Il ne disait que ce qu'il entendait de son Père, et parce que son âme était soumise à l'Esprit de Dieu, Jésus demeurait dans le repos. Il disait que son Père faisait les œuvres. Voyez-vous, lorsque nous demeurons en Christ, c'est lui qui fait toutes les œuvres. Notre labeur cesse, nos efforts pour plaire à Dieu cessent, nous sommes dans notre sabbat. Le dictionnaire Webster donne pour définition du mot « demeurer » comme étant une résistance active contre tout ce qui essayerait de nous déplacer de là où nous choisissons d'être. Nous devons donc rester dans ce repos une fois que nous y sommes entrés. Demeurer n'est pas de la passivité de notre part, pas du tout. Alors que nous amenons nos pensées captives de Christ, nous sommes transformés intérieurement. Le Proverbe, chapitre 23, verset 7, nous parle de la puissance d'action, je dis bien de la puissante action de la pensée sur l'être tout entier. Il est dit, car comme un homme a pensé dans son âme, tel il est. Nous sommes donc limités par notre qualité de pensée. Cette pensée non renouvelée ou charnelle doit être renouvelée par la connaissance de Dieu. Une intelligence non renouvelée est facile à reconnaître. Elle est consciente du péché toujours présent dans ses membres et elle se voit toujours dans sa condition humaine, cette condition de faiblesse et de vulnérabilité spécifique à la chair. Cette âme-là a entendu parler de l'œuvre accomplie pour nous par le sang de Jésus, mais elle n'en saisit pas la pleine signification. Elle a donc une connaissance intellectuelle du salut par grâce, d'accord, mais elle n'en a pas eu la révélation par l'esprit. Cette âme se débat pour obtenir ce qui est déjà acquis. Nous travaillons afin de produire quelque chose qui nous a déjà été donné. Nous nous efforçons d'atteindre quelque chose que nous avons déjà. Nous gravissons péniblement une montagne déjà conquise pour nous. Ainsi, une intelligence non renouvelée ne peut saisir ces choses. Dieu est saint. Nous savons que nous ne pouvons nous approcher de lui tant que nous ne sommes pas sanctifiés. Nous reculons devant Dieu simplement parce que nous sommes conscients de notre manque de sanctification personnelle. Ce syndrome, dans les Saintes Écritures, il est connu sous le nom de la conscience du péché et dénote une vie constamment tourmentée par une sensation d'échec et d'indignité. Nous aimons la loi de Dieu, mais dans nos membres, il existe une autre loi, c'est la loi du péché, et nous nous débattons. Il existe un rapport entre croire Dieu et ses promesses et avoir une bonne conscience. L'apôtre Paul explique que nous gardons la foi dans une bonne conscience. Une bonne conscience, c'est le contraire de la conscience du péché. Nous ne pouvons faire confiance à Dieu quand nous avons l'impression d'être des incapables. L'âme consciente du péché, appelée aussi conscience faible, garde devant les yeux sa faiblesse naturelle plutôt que de se voir à la lumière de la vérité biblique. C'est notre conscience du péché qui nous enferme dans cette pensée naturelle ou charnelle et qui nous maintient dans la mort. Car l'entendement charnel, c'est la mort. Nous voyons ce que nous sommes condamnés par nos échecs continuels et Satan, l'accusateur, ne nous laissera pas oublier nos erreurs, jamais. Nous vivons dans la culpabilité et sous la condamnation. Presque tout échec spirituel provient d'une telle conscience. Premièrement, nous avons l'échec spirituel. Elle détruit la foi, car si nous regardons l'iniquité dans nos cœurs, le Seigneur ne nous écoutera pas. selon le psaume chapitre 66, verset 18. Deuxièmement, elle freine notre initiative pour aller de l'avant, c'est-à-dire nous pataugeons spirituellement et perdons notre vision. Troisièmement, nous avons un complexe d'infériorité qui nous paralyse. Et quatrièmement, et le pire de tout, nous avons une telle conscience du péché qui nous prive carrément de la communion avec le Père. Alors, quelle est la solution de Dieu devant une situation aussi fâcheuse? Voici la vérité. Ma conscience me dicte ce que je dois penser de moi-même. Le sang de Jésus-Christ, lui seul, me dit ce que Dieu pense de moi. Seule la sainte parole de Dieu est qualifiée pour nous donner une véritable image de la nouvelle création que nous sommes. Seule ma connaissance de la puissance du sang de Jésus-Christ peut me faire comprendre ma totale incapacité à me sanctifier par mes propres efforts. Le sang de Jésus, c'est donc la seule guérison possible pour ma conscience du péché. Rien de ce que je pourrais faire ne suffirait. Et cela ne peut se faire que par ma foi en ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Dans Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14, nous voyons le rapport qu'il y a entre un sacrifice de l'Ancien Testament et la conscience du péché. Il est dit, car si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une genisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, et bien combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Les cendres de la genisse rousse est donc liée à la bonne conscience envers Dieu. Chaque sacrifice du sang dépeint en quelque sorte un certain aspect de l'œuvre de rédemption de Christ à notre endroit. Chacun de ces sacrifices explique comment Dieu pourvoit à nos différents besoins. Le sacrifice concernant les cendres de la genisse rousse, cela se trouve dans un ordre donné dans le livre des Nombres, chapitre 19, versets 2 et 3. C'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé en disant « Parle au fils d'Israël et qu'il t'amène une genisse rousse sans tare, qui n'ait aucun défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Et vous la donnerez à Éléazar, le sacrificateur, et il la mènera hors du camp, et on l'égorgera devant lui. » Verset 5. « Et on brûlera la genisse devant ses yeux, on brûlera sa peau et sa chair, et son sang avec sa fiente. » Verset 9. « Et un homme pur ramassera la cendre de la genisse et la déposera hors du camp en un lieu pur. » Alors elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme eau de séparation, c'est une purification pour le péché. Versets 16 et 17. Et quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou un ossement d'homme, ou un sépulcre, sera impur 7 jours. Et on prendra pour l'homme de la poudre de ce qui a été brûlé pour la purification, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. La genisse était donc égorgée, sa chair était brûlée, puis les cendres étaient gardées dans un but particulier. Ces cendres était pour ceux qui s'étaient souillés au contact de la mort. Le contact avec la mort souillait les sacrificateurs, ils n'étaient pas purifiés selon le cérémonial d'usage pour s'acquitter de leurs fonctions. Les cendres étaient donc mises de côté pour cette raison. On les mélangeait avec de l'eau et on aspergeait le sacrificateur impur qui redevenait ainsi pur et acceptable à la présence de Dieu. Comment pouvons-nous interpréter cette ancienne ordonnance de manière à ce qu'elle favorise la guérison de mon sentiment de culpabilité et d'échec devant Dieu? Car ce sacrifice purifiait la souillure de la mort. Chaque fois que je suis tenté de me voir tel que je suis humainement, je suis conscient de ma propre défaite et de mon péché. Cela produit la mort. Si vraiment j'ai fait les 400 coups, je ferai probablement l'une des deux choses suivantes. Premièrement, je combattrai dans la chair qui est appelée le vieil homme du péché. Or, nous ne devons pas combattre ainsi, mais plutôt considérer la chair comme étant morte. Aux yeux de Dieu, le vieil homme est mort. Nous nous salissons en nous débattant avec lui. Il représente l'homme irrégénéré que nous étions avant de venir à Christ. Et par la foi, nous le voyons mort, disparu. Sa condamnation à mort est proclamée dans Romains chapitre 6, verset 6. Là, il est dit, « Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Jésus-Christ, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. » L'Épître aux Romains est le sixième livre du Nouveau Testament, et c'est ici le sixième verset du sixième chapitre, et 666 est le chiffre de l'homme de l'Antéchrist déchu. En nous, celui-là est mort, et nous devons le voir ainsi. Et deuxièmement, quand nous ne voyons pas par la foi que le vieil homme est mort, nous faisons toutes sortes de choses pour nous punir nous-mêmes. Nous faisons par exemple pénitence. Nous pensons que la repentance, cette repentance ne suffit pas. Mais c'est une œuvre morte, et les œuvres mortes, elles aussi, nous souillent. Lorsque nous avons raté le but et que nous avons péché, nous sommes dans un sentiment de défaite et de désespoir. Dieu veut donc que nous nous aspergions des cendres néo-testamentaires de la jeunesse rousse. Quelles sont nos cendres? Comment nous en asperger? Les cendres sont le résidu d'un feu, ce qui reste après qu'un feu se soit éteint. Donc le brasier est devenu sombre, la chaleur refroidit, et tout ce qui reste sont des cendres froides. Chers amis, c'est au calvaire que le feu de la colère de Dieu contre le péché des hommes s'est embrasé. Sa colère brûla et brûla encore jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. Moïse pose cette question dans le psaume chapitre 90, verset 11. Qui connaît la force de ta colère? Une seule personne l'a vraiment connue et expérimentée complètement. Seul, il a bu la coupe de l'intensité du courroux de Dieu contre le péché. Oui, c'est Jésus qui porta ce feu, et ce feu s'est éteint en lui. Il s'écria, « Tout est accompli !» Le jugement, la pénalité du péché, tout a été payé à tout jamais. Justice est donc faite. Le feu ayant été éteint, quelles sont nos cendres? Les vraies cendres témoignent de la fin du feu. La sainte parole de Dieu est notre témoignage que l'œuvre de Jésus est finie, accomplie. Le feu était au calvaire et les cendres de ce feu témoignent silencieusement de l'œuvre accomplie de Christ. Cela, nous devons nous l'appliquer et nous l'approprier. L'eau mélangée aux cendres et aspergée sur l'être souillé, c'est le présage de ce qui se passe lorsque, par la foi, nous recevons la parole et nous approprions la bénédiction. Les promesses attachées à cette œuvre sont nos cendres actuelles pour nous en asperger aujourd'hui. Les paroles nous rappellent ce qui a été détruit par ce feu, la justice éternelle rendue et satisfaite dans ce feu, et voilà donc nos cendres néo-testamentaires. Il y a les promesses telles que Hébreux chapitre 10, verset 10, où il est dit « Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ Jésus, faite une fois pour toutes. » Versets 12 et 14. « Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Ces promesses, ainsi que toutes les promesses semblables, sont nos cendres de la Nouvelle Alliance. Unissons donc ces paroles avec l'Esprit vivant, l'eau de la foi. Que cette parole devienne cette réma, parole de foi. Appliquons-la à notre âme qui est souillée. Et quand nous faisons cela, nous entrons dans la présence de Dieu, le tabernacle de sa présence en nous. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22, parle de cette entrée. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayons les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Nous entrons donc, chers amis, au moyen du sang de Jésus et nos âmes, cœurs, sont aspergés et lavés d'une mauvaise conscience. Toute promesse nous rassurant de l'œuvre qui a été accomplie par Jésus, parfaite et éternelle. Ce sera pour nous comme les cendres de la jeunesse rousse. Nous devons utiliser ces promesses dans la précieuse parole et alors que nous en aspergeons notre entendement par la foi, nous entrons dans son repos. Dans la Genèse, les chérubins gardaient l'arbre de vie. L'homme était séparé de la présence de Dieu par des épées de feu. Ces chérubins ont maintenant mis de côté leur épée et s'agenouillant au-dessus du trône de la grâce qui est aspergé de sang. Ils s'émerveillent à la vue du sang, car Dieu nous a ouvert la porte. Désormais, nous pouvons chaque jour participer à cet arbre de vie qui est le symbole de la nature divine. Le voile est ouvert et nous pouvons prendre part à Christ continuellement, mais pour cela, il y a une condition à remplir. Nous devons retenir notre assurance. Hébreux chapitre 3, verset 14 nous dit « Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance. Quelle est cette assurance que je ne dois pas abandonner ? C'est cette confiance en la grâce de Dieu, l'assurance que je suis sauvé, non pas par mes bonnes œuvres, mais par la grâce de Dieu, elle seule. C'est là le commencement de ma confiance envers Dieu. Je n'avais aucune confiance, aucune assurance envers Dieu, tant que j'ignorais que mon salut dépend de son œuvre accomplie et non pas de mes efforts interminables pour devenir acceptable à ses yeux. Donc, retenir notre assurance est une discipline continuelle. Dès que nous perdons de vue le fait que nous sommes sauvés et sanctifiés par sa grâce, eh bien nous tombons dans les problèmes de religiosité à ne plus en sortir. La Sainte Bible ne nous dit pas de retenir notre détermination. Elle ne nous dit pas non plus de retenir notre engagement, mais elle nous dit de retenir notre confiance en sa grâce. Notre assurance ne peut exister que par son sang, jamais sur la base de notre certificat de bonne conduite. Ce sera toujours son sang et sa grâce. Nous pouvons toujours croire à la puissance de Dieu et nous devons aussi toujours croire à sa grâce. Le contraire de retenir notre assurance est de l'abandonner. C'est à l'occasion de nos pires échecs que l'ennemi de nos âmes nous tentera le plus afin que nous abandonnions notre confiance dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu. Dans ces moments sombres d'échecs, où en est ma foi? Est-ce que je continue de croire que la grâce et la miséricorde de Dieu sont pour moi, ou bien est-ce que je les rejette? Judas a trahi Jésus, mais l'apôtre Pierre l'a trahi aussi. Jésus avait mis l'apôtre Pierre en garde avant l'épreuve et lui a dit qu'il priait pour lui afin que sa foi ne faiblisse pas. Jésus n'a pas prié afin que l'apôtre Pierre ne faiblisse pas, mais que sa foi, sa confiance ne défaille pas. Dans la majorité des vies de chrétiens, il y aura au moins un échec, et c'est le moment précis où plus que jamais nous devons croire à la puissance du sang et maintenir notre confiance en la grâce de Dieu. À cette condition seulement, nous pouvons nous reposer en celui qui a le pouvoir de nous sauver. Si nous voyons des choses mauvaises en nous, regardons au sang de Jésus, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand, beaucoup plus grand que notre cœur. 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 20. Écoutez les paroles de l'apôtre Pierre. Dieu pourvoit à tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 2 et 3. Il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu. Toute chose, oui, toute chose dont nous pourrions avoir besoin sur le plan matériel ou spirituel, nous sont déjà données gratuitement, nous affirme l'apôtre Pierre. C'est chose faite, et elle est d'ores et déjà accomplie. Le désir de Dieu est que nous sortions hors de l'arène des conflits provoqués par nos besoins physiques et nos manquements spirituels. Son désir est que nous soyons dans le repos quant à nos besoins matériels et notre manque apparent de véritable sainteté. Il est notre source pour toute chose. Alors que nous plaçons notre confiance en lui et que nous abandonnons notre lutte personnelle, sa présence se fait sentir et cette présence pourvoit à tous nos besoins. Chacun manque, donc on peut dire aucun manque, excusez-moi, ne peut subsister là où est la présence du Seigneur. Il est un fait que toute maison que habite Christ n'est pas encore pleinement sa demeure. Il vient comme un invité sous notre tente, d'accord, et il s'abrite sous notre toit, mais il n'en est pas encore le propriétaire à part entière. Nous pouvons donc l'appeler Seigneur, laissant ainsi entendre que nous lui appartenons, pourtant nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire. Or, nous continuons dans une grande mesure à suivre nos propres tendances au lieu de le suivre lui. Le mot « règne sur nous » et non pas « le roi Jésus », voyez-vous, je répète, le mot « règne sur nous ». Il doit régner sur nous, et non pas seulement le roi Jésus. Dans une telle vie, Jésus est en somme qu'un invité. Sa souveraineté dans nos vies dépend de notre écoute et de notre obéissance, excusez-moi, et à sa voix. Donc cette voix, elle vient de notre esprit, là où il y a sa demeure. Son arche est donc en nous. Nous devons apprendre à vivre, à nous mouvoir et à être le résultat vivant de cette vérité. « J'habiterai, est-il dit, au milieu d'eux, et j'y marcherai », nous promet Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. À nous de maintenir le voile ouvert et de ne pas permettre à l'intelligence charnelle de cacher comme un rideau la vie spirituelle qui est à l'intérieur. Nous devons apprendre à vivre par l'intérieur spirituel vers l'extérieur. L'esprit est inébranlable, il est ancré à l'intérieur du voile, il est immuable parce que Dieu est immuable et il est véritablement uni à Christ, enlacé, inséparable. Quelle que soit la violence de la tempête, de l'adversité, notre ancre tient fermement derrière le voile. Nous devons apprendre, oui, apprendre à écouter. Et voilà comment Jésus vivait et agissait. Il disait qu'il écoutait toujours le Père demeurant en lui et que c'était le Père qui faisait les œuvres. C'est la tranquillité communiquée par la grâce en action. Voyez-vous, lorsque nous faisons les œuvres préparées pour nous par le Père, l'effort que demandent ces œuvres est assumé par Dieu lui-même. Il fait ses œuvres comme il le faisait pour Jésus. Une telle facilité dépend donc des relations que nous avons avec le Seigneur. Cela dépend d'une communion ininterrompue, une communion ininterrompue du Saint-Esprit. Donc la clé d'une telle communion est d'avoir un cœur attentif et obéissant. Notre oreille intérieure doit être branchée en permanence afin d'entendre et d'obéir à celui qui demeure en nous. Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées. Proverbe chapitre 8, verset 34. Donc, notre bénédiction, c'est le résultat de cette attention et de cette soumission délibérée à l'Esprit de Christ. Il ne parle pas depuis notre extérieur, mais depuis nos cœurs. Sa direction émane de son sanctuaire à l'intérieur de nous, mais notre âme doit apprendre à garder le silence et à écouter cette petite, toute petite voix. Il parle, mais nous ne l'écoutons pas. Notre agitation humaine et notre activisme étouffent carrément les conseils dont nous avons désespérément besoin. L'histoire des deux sœurs, Marthe et Marie, telle que nous la lisons dans Saint-Luc, chapitre 10, verset 38 à 42, c'est une bonne illustration. Marthe était littéralement écrasée par son service pour le Seigneur. Elle faisait les choses qui avaient besoin d'être faites. Elle voyait la maison pleine d'hommes, disciples de Jésus, et elle savait qu'il fallait leur préparer à manger. Elle réagissait donc conformément à son entendement humain. Elle était pressée et touchée par le besoin du moment qui était immense. Et elle déployait ses forces pour répondre à ce besoin. Et pendant ce temps, Marie était assise en écoutant les paroles de Jésus. T. Austin Sparks fait remarquer que dans le grec, il y a la notion de continuité ou de permanence. Il y avait donc une action continue dans l'écoute de Marie, et l'écoutait sans arrêt. C'était une action continue que d'écouter les paroles de Christ alors qu'elle était assise paisiblement à ses pieds. Le Proverbe chapitre 8, verset 34 nous a dit que l'homme qui écoute tous les jours est bienheureux. À combien plus forte raison celui qui ne cesse d'écouter. C'est une manière de vivre vers laquelle nous devons donc tendre. Alors l'attitude de cœur de Marie, elle nous montre celle qui plaît le plus à Jésus. Elle démontre que les paroles de Jésus sont sa première priorité. Elle savait que Jésus aurait pu facilement l'excuser pour les tâches nécessaires de la cuisine, mais l'important était de l'écouter, de lui obéir, de ne bouger que à son signal et à son temps. Elle ne se confia pas à son propre entendement et refusa d'être dans la crainte devant la situation. Et c'est sur lui qu'elle se reposa, sur Jésus. Marie représente donc ceux qui vivent selon l'esprit, qui sont animés par l'esprit et non pas par les circonstances, qui agissent dans le repos, surnaturel de Dieu. Sur le plan purement humain, nous pouvons ne pas être d'accord et à argumenter, bien entendu. Marthe est simplement l'exemple de la plupart d'entre nous qui servons à partir de, on peut dire, à partir de notre intellect. Je répète, Marthe est simplement l'exemple de la plupart d'entre nous qui servir donc le Seigneur à partir de notre intellect. Nous faisons donc ce qui visiblement a besoin d'être fait et nous agissons selon notre propre entendement. Nous sommes harcelés, accablés et nous perdons de vue les paroles de Dieu qui disent « Mon fardeau est léger et mon joug est facile ». Jésus a donc parlé à Marthe, l'a ferrée, l'a surmenée, et lui a dit « Une seule chose est nécessaire. » Une seule chose est vraiment nécessaire. S'il existe une priorité dans le service pour Jésus-Christ, il l'indique bel et bien dans ses paroles. Une seule chose est donc nécessaire. C'est entendre le Seigneur continuellement, c'est de l'écouter, se laisser conduire par lui dans tout ce que nous entreprenons, ce que nous devons faire et quand nous devons le faire et où nous devons le faire. Une seule chose est donc nécessaire. Croyons-nous que Dieu a un plan? Croyons-nous cela vraiment? Croyons-nous qu'il a un plan pour nous? Croyons-nous qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour que nous puissions entrer, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Si nous croyons ces choses, alors une seule chose est nécessaire. Nous devons être continuellement soumis à sa direction. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu, est-il dit dans le psaume 46, verset 10. Une seule chose est donc nécessaire, et elle nous amènera à notre pleine destinée en Dieu. Son conseil quotidien assurera notre bonne arrivée. Certains ont dit que la Sainte Parole écrite de Dieu est une carte géographique nous indiquant le chemin. Sa parole dite par l'Esprit habitant en nous, c'est en effet notre guide personnel. Parfois, notre route passe par des chemins traités et tellement ténébreux, on peut dire des chemins qui sont parfois traîtres, et notre plan semble vraiment obscurci. Mais écoutons notre guide plutôt que de faire confiance à nos capacités pour suivre un plan aussi bon qu'il puisse paraître. Une seule chose est donc nécessaire, c'est ce que nous a prévenu Jésus. David, voyez-vous, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait compris ce principe-là. Il savait que c'était une vérité fondamentale. Dans le psaume 27, versets 4 et 5, nous entendons le cri de son cœur. Il dit « J'ai demandé une chose à l'Éternel, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Car au mauvais jour, il me mettra à couvert dans son tabernacle et il me tiendra caché dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » David connaissait le lieu secret du Très-Haut. Il savait que ce lieu secret est au cœur de son peuple. Il comprenait que la chose la plus importante à rechercher et à désirer était demeurer dans la lumière de celui qui demeurait dans son cœur. Il comprenait aussi que sa réponse à d'éventuels problèmes dépendait du degré de sa communion avec lui. Sa présence communique donc sa puissance et sa présence pourvoit à tous les besoins. Nous gardons constamment le seul contact avec sa présence en l'écoutant continuellement et en lui obéissant. Oui, une seule chose est donc nécessaire. Il semblait que Jésus appréciait la maison de Marie. Marie et Lazare et à Béthanie, et qu'il trouvait du repos. En effet, Jésus trouvait tout son repos vers Marie, Marthe et Lazare à Béthanie. Pour terminer, chers amis, cette étude, disons simplement que Jésus trouvera aussi le repos en nous. Lorsque nous aurons appris à constamment entendre sa voix, car un cœur à l'écoute est un cœur tranquille, le cœur préparé à être son habitation, c'est celui qui écoute dans l'obéissance son Seigneur. C'est ce qui en fait le maître de la maison et non pas un simple invité. À nous donc de le proclamer Seigneur et nous le faisons Seigneur, non pas en l'appelant Seigneur, Seigneur, mais en lui obéissant. Mais avant d'obéir, il faut bien entendu d'abord l'écouter, suivre les plus petits détails de ses instructions est souvent nécessaire à notre survie. Ses conseils viennent au moyen de cette toute petite voix intérieure et les entendre et les écouter nous épargne beaucoup de pièges qui sont préparés contre nous par l'ennemi de nos âmes. Amen. Chers amis, nous allons terminer maintenant par la prière. Prions. Prier, c'est courir comme un enfant auprès de son Père, et c'est en même temps l'aimer, lui présenter des requêtes, recevoir et le remercier pour tout son amour. Quelle activité bénie! Prions, oui, oui, je veux t'aimer Seigneur, ma force, mon bouclier, tu es mon refuge et mon libérateur. Psaume 18, verset 2. Tu es l'incarnation de tout ce que je pourrais souhaiter et aimer. Mon Dieu, tu es mon aide. Je veux aimer selon tes dons et selon mes limites. C'est sans doute moins que ce qui conviendrait, mais ce n'est pas moins que ce dont je suis capable, car je ne peux pas t'aimer aussi fort que ce que je devrais. Bien sûr, je pourrais davantage si tu m'aidais à plus, mais en vérité, j'aime j'aimais autant que tu ne le mériterais vraiment. Toute l'imperfection de ce qui est mien, tes yeux l'ont vu, mais cependant, ils sont tous inscrits dans ton livre, psaume 139, verset 16. Ceux qui font ce qu'ils peuvent, mais s'ils ne peuvent pas faire ou pas le faire, tout ce qu'en vérité ils devraient accomplir, et nous pouvons l'accomplir en étant confiants en toi, en sachant que tu nous aides à tout moment de notre vie. Amen. Chers amis, merci pour la patience que vous avez à l'écoute de ces études, et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, très chers amis, et n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir.